Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Élodie Courtejoie.
Bonjour, si vous avez des douleurs musculaires, une fatigue chronique, des migraines, une hypersensibilité au son, à la lumière, des difficultés de concentration, une tendance à la dépression, alors il est possible que vous soyez touché comme 2 à 6% de la population par la fibromyalgie. Un mal reconnu par l'OMS depuis 1992 et qui est reconnu officiellement en France depuis plus récemment encore, car elle suscite les controverses. Car quelle est la frontière avec les hypochondriaques, ces malades imaginaires? Quel est le degré de douleur? En plus, la douleur, un élément très récemment pris en compte par la médecine. Est-elle cette fibromyalgie handicapante? Quand surgit-elle? Comment la traiter? Et enfin, qui concerne-t-elle? Nous verrons que les femmes sont plus touchées que les hommes. En tout cas, pour répondre à nos questions, le professeur Joël Menkès est avec nous. Professeur Joël Menkès, bonjour.
Bonjour.
Merci de revenir parmi nous à Canal Académie. Alors, vous êtes toujours membre de l'Académie nationale de médecine, ancien chef de service en rhumatologie à l'hôpital Cochin, professeur émérite à l'Université Paris 5. Alors, dans une précédente émission, vous nous aviez parlé de l'ostéopathie, une pratique et non pas une médecine. Et nous renvoyons d'ailleurs nos auditeurs à cette émission, mais pas avant de nous avoir suivis sur la fibromyalgie, bien sûr. Alors, pour commencer, tout simplement, quelle est la définition médicale de la fibromyalgie? Et puis, quel médecin décrète ces symptômes comme étant le signe d'une maladie à part entière?
Alors, c'est encore un sujet très polémique, parce que, comme vous venez de le dire, la fibromyalgie, c'est quelque chose de fonctionnel. Ce sont des gens qui éprouvent des douleurs un peu partout, un mal de vivre, une raideur matinale, une sensation de fatigue, un mauvais sommeil, et qui viennent voir le médecin en se plaignant donc de ces différents symptômes avec une présentation un peu dépressive. Alors, il y a deux écoles qui s'affrontent. Les uns disent « mais non, ce n'est pas une maladie, ce n'est rien du tout, c'est simplement des manifestations psychologiques, voire psychiatriques, et c'est une dépression qui se manifeste par quelques phénomènes douloureux. » Et d'autres, au contraire, considèrent qu'il s'agit d'une maladie définie, et on a même parlé, il y a quelques années, d'une véritable guerre entre les partisans et les opposants à la réalité clinique de cette affection. À notre avis, et c'est le sens de notre rapport, il s'agit d'un syndrome clinique qui existe. Et les praticiens ont rencontré des malades qui correspondent très exactement aux définitions qui ont été données, c'est-à-dire douleurs diffuses, troubles du sommeil, fatigue intense, en l'absence de signes cliniques d'anomalies objectives des articulations ou à l'examen neurologique. Parce qu'il faut bien concevoir que cette maladie ne peut être qu'envisagée qu'après avoir éliminé une autre cause de phénomène douloureux. C'est finalement un diagnostic très difficile. Et pour vous donner un exemple, je me souviens il y a quelques années, un homme jeune, trentaine d'années, commerçant, vient me voir car il se plaint de douleurs diffuses depuis plusieurs mois.
Ce sont des douleurs musculaires, hein, il faut préciser, c'est des courbatures peut-être.
Tout à fait. Dès qu'il bouge, il a mal, il a des difficultés à rester debout, il se sent fatigué. Il vient avec sa mère et son comportement est étrange. Il est très renfermé, il répond à peine aux questions. Et sa mère me dit, vous savez, il est commerçant, il a de gros soucis financiers. Tout le monde me dit que c'est là la cause de ces phénomènes douloureux parce qu'on l'a examiné sous toutes les coutures et on ne trouve absolument rien. On lui dit que ses muscles fonctionnent normalement, que les examens sont satisfaisants.
Qu'il somatise en quelque sorte.
L'examen neurologique est normal, donc ça doit être psychologique. Effectivement, il marchait d'une façon extrêmement curieuse. Il disait qu'il avait des difficultés à se lever. Il souffrait quand on lui appuyait sur les muscles des cuisses ou sur les muscles des bras. Et malgré cette présentation extrêmement bizarre, je ne me suis pas arrêté l'hypothèse d'un problème purement psychiatrique, et je l'ai fait rentrer quelques jours dans le service pour faire des examens, et on s'est aperçu qu'il avait un taux de phosphore sanguin complètement effondré. En réalité, cet homme avait une anomalie de l'absorption du phosphore, et avec les années, le phosphore s'est complètement effondré, et le muscle ne pouvait pas travailler puisqu'il manquait de phosphore qui est indispensable au métabolisme musculaire. Et il a suffi de lui donner quelques comprimés de phosphore pour guérir complètement cette maladie.
Alors, avant de comprendre qu'il lui manquait du phosphore, je suppose qu'il est resté de longues années sans traitement et à vivre avec son mal, et en étant malheureux, et dans un état, en tout cas,
oui,
dépressif.
On n'avait pas pensé à regarder le phosphore, on avait regardé beaucoup de choses, mais pas le phosphore.
Et là, en l'occurrence, ce n'est pas une fibromyalgie.
Non, là, c'est un diagnostic différentiel. Et la fibromyalgie n'était évoquée qu'après avoir éliminé toutes les maladies possibles et imaginables. Une autre malade est adressée parce qu'elle a des douleurs partout. C'est une des choses les plus difficiles en rhumatologie. Les gens qui ont mal partout. Et apparemment, rien à l'examen.
On fait des radios, on multiplie
les
examens.
Des examens, des analyses dans tous les sens pour vraiment éliminer une maladie organique. Donc cette femme est envoyée parce qu'elle se plaint de douleurs un peu partout, de fourmillements dans les extrémités, que l'on peut voir aussi dans la fibromyalgie. Et on lui dit qu'on ne trouve rien. On pense qu'elle est déprimée, mais on l'envoie en cure et le médecin de cure trouve que sa présentation est quand même un peu spéciale et il l'adresse pour faire des examens complémentaires dans le service là encore. Et le contact avec cette femme est tout à fait étonnant puisque rentrant dans sa chambre, elle refuse pratiquement de répondre aux questions. Et on a une sorte de répulsion, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie de s'en occuper tellement elle est désagréable dans son contact. Ce qui se voit souvent avec les fibromyalgiques, on a besoin de faire attention à ne pas les rejeter, car ils se plaignent tellement, ils sont tellement désagréables, car ils subissent rebuffade sur rebuffade, et finalement ils n'ont plus confiance en personne, donc ils ont un contact assez difficile. Donc passant outre à ce premier contact déplaisant, en l'interrogeant, on apprend que dans sa famille, il y a plusieurs personnes qui sont mortes d'une maladie du rein. Elle n'a aucune atteinte du rein, mais il y a un frère, sa mère a une maladie du rein, un de ses frères est en Australie, a une maladie du rein, et on retrouve sur sa paume, mais sur la face dorsale des orteils, quelques petites taches rouges. Le dermatologue la voit et dit non, ça c'est rien du tout, on appelle ça des angiokératomes, ce sont des petites dilatations capillaires, ça n'a pas de signification. En réalité, on s'est aperçu que cette femme avait une anomalie du métabolisme et qu'elle avait ce qu'on appelle une maladie de Fabry. Cette maladie de Fabry, c'est un déficit dans un enzyme qui fait qu'il y a des dépôts de substances graisseuses, qu'on appelle des cérébrosides, dans les vaisseaux qui nourrissent les nerfs. Et ça occasionne des phénomènes douloureux un peu partout. Cette maladie se voit surtout chez les hommes, pour une fois, mais elle peut se voir également chez les femmes sur un mode atténué. Et en faisant la biopsie de ces éléments rouges, ces petites dilatations capillaires, on a mis en évidence l'existence de cette maladie de Fabry. Donc tout ça pour dire que chez quelqu'un qui a mal partout, il ne faut pas s'arrêter
suite,
en première intention
une
diagnostic de fibromyalgie. Encore un autre exemple, si vous permettez. Un confrère, chirurgien, académicien, après la présentation du rapport, vient vers moi et me dit « Tu sais, je crois que j'ai la maladie que tu viens de décrire. »
Ah, c'est souvent le principe, hein, quand on décrit une maladie, on pense être atteint de ce mal.
Alors, je lui réponds « Écoute, ce que vous venez de dire, quand on décrit une maladie, on a l'impression d'être atteint de ce mal, ça m'étonne, parce qu'en général, ce sont les femmes entre 30 et 50 ans, et toi, maintenant, tu es honoraire. »
Et nous reviendrons d'ailleurs là-dessus, hein, sur les personnes qui sont touchées.
Ça me paraît un petit peu curieux que ça apparaisse comme cela. Et quelques temps plus tard, il revient en me disant « Mais en fait, ce qui m'a occasionné ça, c'est un médicament pour faire baisser le cholestérol, une statine. Et les statines peuvent occasionner des phénomènes douloureux diffus. » Donc il faut interroger la personne, savoir si elle prend des médicaments. On a aussi des douleurs diffuses chez les femmes qui ont un cancer du sein traité par anti-estrogène, anti-aromatase. Donc vous voyez, c'est assez complexe. Avant d'arriver au diagnostic de fibromyalgie, il faut un examen général très soigneux et éliminer toute autre possibilité.
Alors, on voit bien toute la complexité hein, pour diagnostiquer la fibromyalgie. Juste pour revenir sur les chiffres, je disais dans la présentation qu'on estimait à peu près entre 2 et 6 % de la population qui serait touchée par la fibromyalgie dans les pays industrialisés. Pour la France, vous l'estimez, vous, entre 1 et 2 % ?
Entre 1,5 et 2 %, semble-t-il, pour les enquêtes régionales.
Et donc, comme vous le précisiez, ce sont donc les femmes qui sont le plus touchées. Et avec quelle tranche d'âge à peu près ?
Alors, c'est un syndrome clinique que l'on voit effectivement chez les femmes, surtout entre 30 et 50 ans.
Avant la ménopause, alors?
Avant la ménopause. Mais on peut également rencontrer ce syndrome chez l'homme, une fois sur 10, et également chez l'enfant. L'enfant n'est pas du tout épargné.
Donc, finalement, le critère de l'âge n'entre pas spécialement en compte?
Non, mais il est rare que le diagnostic soit fait en première intention après 60 ans. Vous voyez, c'est une limite.
Mais si je vous parlais de cet âge avant la ménopause, c'est parce que si on se dit que ça touche plus spécifiquement les femmes, c'est une question d'hormones. Mais si justement, au moment où il y a la ménopause, il y a moins d'hormones, peut-être que ce n'est pas forcément une question d'hormones finalement. Vous voyez ce que je veux dire?
Il n'y a pas qu'une question d'hormones. On ne sait pas exactement quel est le rôle de l'hormone, mais on a évoqué la relation entre les estrogènes et les récepteurs à la sérotonine. Mais on ne sait pas exactement pourquoi. Il y a sûrement une influence hormonale, mais le mécanisme intime de cette influence hormonale n'est pas connu.
Pour revenir sur la fibromyalgie plus concrètement, c'est donc une maladie qu'on a bien compris qui touche, on va dire, les muscles, hein, les fibres musculaires. Mais l'origine de cette maladie ne se trouverait pas dans les muscles eux-mêmes.
Alors vous avez tout à fait raison, on a pendant des années essayer de trouver l'origine de la maladie dans le muscle, en faisant des examens extrêmement sophistiqués, en essayant d'étudier la fibre musculaire isolée, en faisant des prélèvements biopsiques, en regardant au microscope électronique, enfin en examinant le muscle sous toutes les coutures, et en fait le muscle est tout à fait normal. Il s'agit d'un phénomène purement sensitif. Il n'y a pas d'anomalie de la fibre musculaire. Bien que les personnes et l'impression d'une diminution de la force. Ils ont des difficultés à bouger. Par exemple, travailler les bras en l'air, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement pénible. Mais cette diminution apparente de la force musculaire peut être compensée par des exercices qui permettent de récupérer cette apparente diminution.
Mais alors,
donc c'est purement sensitif.
Mais alors, où trouve-t-elle son origine, cette maladie? Si la douleur est un symptôme, pour le coup, où est l'origine?
Alors, l'origine, actuellement, on pense, on ne sait pas encore très exactement, mais enfin, les choses ont progressé, et on pense actuellement qu'il s'agit là d'un dérèglement de la perception douloureuse. C'est-à-dire que si je vous serre le bras pas trop fort, vous ne direz rien. Si vous avez une fibromyalgie, si je vous serre un petit peu le bras, vous allez pousser des cris en me traitant d'assassin. Les cardiologues mexicains se sont aperçus qu'il y a une très belle école de cardiologie à Mexico, très importante. Ils se sont aperçus qu'un certain nombre de personnes, lorsqu'on leur prenait la pression artérielle, qu'on gonfle avec un brassard, lorsqu'on gonfle le brassard pour mesurer la maxima, il y a des gens qui vous disent « Ah là là, vous me faites mal, c'est épouvantable ». Alors c'est vrai, nous l'avons tous noté, mais sans aller plus loin. Alors eux se sont dit « Mais ces gens qui rouspètent quand on leur prend la pression artérielle et qu'on gonfle le brassard, est-ce qu'ils ne seraient pas fibromyalgiques ?»
C'est une altération de la perception de la douleur, en quelque sorte.
C'est une altération de la perception de la douleur, tout à fait. Une perception excessive de la douleur, ce qu'on appelle l'allodynie, c'est-à-dire qu'une stimulation qui, normalement, n'est pas douloureuse, chez ces personnes, est perçue douloureuse. On pourrait dire que c'est de l'imagination. Et en fait, les techniques modernes d'exploration neurologique, avec l'imagerie, ont permis de montrer qu'il y avait, par les tomographies à émission de positons, par exemple, ou avec l'IRM fonctionnel cérébral, on a pu montrer qu'il y avait chez ces personnes un défaut de vascularisation des noyaux gris de la base, le thalamus et les autres noyaux gris, qui interviennent dans le contrôle de la sensibilité. Nous sommes actuellement les bras appuyés sur une table. Cet appui n'est pas douloureux, parce que nous avons des filtres qui font que certaines sensations ne sont pas perçues. Chez ces personnes, ce filtre n'existe pas, et les sensations qui ne devraient pas être douloureuses sont perçues douloureuses. Et donc cela se voit avec la diminution de la vascularisation à l'imagerie cérébrale, et si vous stimulez la peau de ces personnes, on voit sur l'imagerie en résonance magnétique que le cerveau réagit de façon beaucoup plus importante que chez quelqu'un qui n'a pas cette fibromyalgie. Donc ça donne une réalité à quelque chose qui est purement subjectif.
Alors je vous propose de marquer une première courte pause, professeur Joël Menkès, et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre émission sur la fibromyalgie. À tout de suite.
Ah. La maladie d'Alzheimer est un domaine de la recherche qui est en friche. Il reste encore beaucoup à découvrir. Canal Académie vous propose un état des lieux avec professeur Jean-Jacques Auve, spécialiste du vieillissement du cerveau, et le docteur Jean Petitpré, qui est président de la Fondation France Alzheimer. Nous vous proposons également de découvrir cette association France Alzheimer qui œuvre à une meilleure prise en charge de la maladie et vient en aide aux familles. Ces deux émissions sont disponibles sur notre site.
Suite de notre émission éclairage en compagnie du professeur Joël Menkès, rhumatologue. Professeur Joël Menkès, dans cette seconde partie, déjà pour revenir sur la fin de cette première partie, vous évoquez effectivement l'hypersensibilité, l'altération de la perception de la douleur qui représentait une partie de la fibromyalgie. Est-ce que cela signifie que finalement, cette hypersensibilité est un signe que le corps en lui-même ne souffre pas, mais c'est les sens qui sont altérés et qui donnent l'impression à ces patients, à ces personnes atteintes de la fibromyalgie, d'être vraiment dans un état de douleur et de souffrance. Et donc un état essentiellement psychologique.
Absolument. Il y a une impression générale de souffrance qui est lié donc à ce qu'on considère comme étant une origine centrale, cérébrale, des règlements cérébraux, des mécanismes de protection contre la douleur, et toute sensation est perçue sur un mode douloureux. Donc ce n'est pas un problème uniquement psychologique ou psychiatrique, il semblerait que ce soit une réalité physique.
Neurologique alors ?
Mais par dérèglement et non pas par dysfonctionnement. Il n'y a pas de paralysie, tout fonctionne, la force musculaire est normale, les articulations sont normales, tout fonctionne correctement. Mais il y a en permanence cette sensation de phénomène douloureux, qui peut d'ailleurs s'associer à d'autres maladies, parce qu'on a beaucoup insisté sur l'association de la fibromyalgie à d'autres maladies rhumatismales. Par exemple, environ 15% des polyarthrites rhumatoïdes, qui sont des lésions destructrices des articulations inflammatoires, sont associées à une fibromyalgie. Des pathologies auto-immunes comme le lupus érythémateux disséminé, qui est une maladie du connectivite, une maladie du collagène, chez ces malades-là, il y a aussi, dans 15% des cas, une association à la fibromyalgie. Et par exemple, pour la polyarthrite, on s'aperçoit que, ayant traité la polyarthrite, les personnes continuent à se plaindre de douleurs, et on est très étonné parce qu'il n'y a plus d'inflammation, l'examen des articulations est normal, et pourtant les gens se plaignent énormément, comme avant. Et en réalité, c'est la fibromyalgie associée qui évolue pour son propre compte. Alors là, il est important de ne pas donner des traitements agressifs ou dangereux qui ne sont pas nécessaires, étant donné que la maladie associée à la fibromyalgie est guérie. Donc il faut bien connaître ça. De même qu'il existe des cas de fibromyalgie associés à un syndrome sec qu'on appelle le syndrome de Goujon-Sjögren. Près de 20% des cas, très souvent. Ou associés aussi au diabète. Il y a des formes douloureuses diffuses chez les diabétiques. Il faut rechercher un diabète chez ces malades. C'est très important. Vous voyez la complexité du problème.
Alors, vous parliez de traitement. Nous allons bientôt, bien sûr, y venir. Comment traiter ce mal ? Auparavant, il y a plusieurs points qui ont été identifiés, 18 points qui ont été identifiés pour essayer de s'auto-diagnostiquer une fibromyalgie. Alors, ces 18 points, lesquels sont-ils ?
Alors, effectivement, c'est en 1990 que l'Association de rhumatologie américaine a essayé de trouver un moyen de classer ces personnes qui souffrent de façon à obtenir des groupes homogènes de malades permettant d'essayer des traitements et de comparer personnes malades et personnes n'ayant pas de signes de fibromyalgie, compte tenu du fait de la variabilité des phénomènes douloureux d'une personne à l'autre. Donc c'est dans un but de classification, et pas tellement dans un but, ce ne sont pas des critères absolument de diagnostic, mais des critères de classification. Cependant, ces points douloureux ont eu un immense succès et ont été à l'origine d'une quantité incroyable de publications, car ils permettent aux gens de parler à peu près de la même chose. Alors, il y a des points douloureux à la pression, il y a des points au niveau de la région du cou, la partie supérieure du cou, l'occiput, à la partie inférieure du cou, au niveau des trapèzes, au niveau de l'épine de l'omoplate, au niveau de la partie antérieure et supérieure du thorax, au niveau des coudes, ce qu'on appelle l'épicondyle, au niveau de la région fessière.
Ce sont les zones à chaque fois articulaires, hein ?
Périarticulaires.
Périarticulaires.
Autour de l'articulation. Le coude, c'est l'épicondyle. Vous savez, les épicondylites des joueurs de tennis. C'est à l'insertion du muscle, souvent. Sur la hanche, c'est derrière le grand trochanter. et derrière la région fessière haute, et puis à la partie interne du genou. Alors, on a même codifié la pression, parce qu'on peut appuyer comme une brute et faire mal à n'importe qui, ou appuyer très légèrement et faire mal à personne. Donc il faut appuyer 4 kg par centimètre carré.
C'est très précis.
Très précis, 4 kg par centimètre carré. Alors il faut avoir un petit appareil spécial, gradué, qui ne se trouve pas n'importe où. Alors quand on n'a pas d'appareil spécial, on dit qu'il faut appuyer jusqu'à ce que la pulpe de l'ongle du pouce devienne blanche. Et ça représenterait 4 kg par centimètre carré. Ceci pour avoir une certaine homogénéisation entre les différents examens examinateurs. Alors il faut... Pour reconnaître la fibromyalgie, il faut d'abord qu'il y ait des douleurs diffuses,
oui,
spontanées,
compris,
un peu partout, du haut en bas, de droite à gauche. Il faut que ça dure depuis au moins 3 mois.
3 mois ? Avant 3 mois, on pense que c'est essentiellement psychologique
ou une
grippe, par exemple, qui provoque des courbatures.
Passagère. Donc il faut que ce soit chronique, au moins 3 mois. Et puis il faut, d'après les calculs qui avaient été faits à l'époque, au moins 11 points sur 18. Mais ça, c'était valable jusqu'à une époque récente, jusqu'à les années 2000. Maintenant, on accorde moins d'importance à ces points douloureux. On fait des diagnostics de fibromyalgie chez des gens qui ont moins de 11 points, c'est-à-dire que même avec 1 point ou avec 3 points, on arrive à faire un diagnostic de fibromyalgie dans un contexte particulier.
Et qui réalise ces diagnostics ? Ce sont les rhumatologues comme vous ?
Ce sont les rhumatologues, les internistes et les spécialistes de la douleur.
Parce que comme c'est une maladie finalement assez récemment reconnue en tant que telle, et notamment dans la présentation que je faisais, on parlait de la douleur qui est également un nouvel élément pris en compte dans la médecine. Peut-être que tous les médecins ne sont pas forcément sensibles à cette maladie.
Vous avez raison. Ces phénomènes douloureux sont connus depuis très longtemps. Ils ont été considérés comme appelés troubles fonctionnels. À un moment donné, en France, on appelait ça la spasmophilie. Des gens qui réagissaient de façon un peu anormale au stimulus. On a appelé ça à un moment donné des fibrosites. Donc c'est connu depuis très longtemps. Mais la fibromyalgie en tant que telle est un cadre qui est isolé et bien décrit depuis surtout les années 90.
Donc les médecins sont maintenant assez informés pour pouvoir chacun diagnostiquer une fibromyalgie.
Ils sont informés, ils doivent savoir, enfin ils savent que ça existe. Mais la difficulté, c'est de reconnaître cette maladie chez quelqu'un qui se plaint un peu de tout et de rien. Ce sont des gens car non seulement ils ont les douleurs, mais ils ont aussi des troubles associés. Ils ont des colites spasmodiques, le syndrome de l'intestin irritable. Donc ils peuvent venir voir le médecin en se plaignant surtout de l'intestin.
Des migraines également ?
De migraines. Et ils ne pensent pas à décrire leur phénomène douloureux musculaire. Et le médecin ne pense pas à rechercher ces points douloureux. Donc le tableau n'est pas toujours évident. Où ils viennent surtout avec un syndrome de grande anxiété, ou avec ce qu'on a appelé le syndrome post-traumatique. Car ce qui est intéressant, c'est que c'est chez ces personnes qui ont ce tableau clinique très particulier. Quand on les interroge, on trouve presque toujours un conflit. Conflit conjugal, conflit familial divers. Et on a beaucoup insisté sur le fait que ces femmes avaient subi, un grand nombre de ces femmes, dans l'enfance, ont eu des traumatismes liés à des actes de pédophilie. C'est une cause majeure de fibromyalgie à l'âge adulte.
Mais quelle est la cause ? C'est difficile de savoir quel est le déclencheur.
Oui,
en l'occurrence, vous pensez que...
On considère que ce sont des syndromes de stress qui entraînent. Mais ça, c'est pratiquement constant. Chaque fois qu'on interroge les personnes qui se présentent avec une fibromyalgie, on trouve très, très, très souvent à l'origine un conflit.
Qui déclenche en fait quelque chose qui est sous-jacent, on va dire, ou alors qui accélère.
Tout à fait, qui révèle.
Alors, venons-en peut-être au traitement, parce qu'on parle de la maladie en long, en large et en travers, on n'a pas encore parlé de traitement. Comment les médecins peuvent-ils soigner ces patients une fois qu'on a mis un nom sur ce mal ?
Alors, le premier élément, c'est de savoir si, en reconnaissant la maladie, en expliquant à la malade qu'elle a une fibromyalgie, on est nocif ou pas. Car un certain nombre de médecins ont dit que le simple fait d'évoquer la fibromyalgie créait des désordres psychologiques et psychiatriques qui étaient néfastes et qu'il ne fallait surtout pas dire aux personnes qu'elles avaient une fibromyalgie parce que ça les faisait entrer dans un contexte de malade.
Mais pourtant, s'ils viennent voir un médecin, c'est aussi pour qu'on mette un nom sur leur mal,
oui,
non ?
Oui, mais ses confrères considèrent qu'ils viennent, que lorsqu'ils sont consultés, ils ne mettent pas de nom, ils disent que ce n'est rien, c'est dû à un état dépressif, c'est dû à des problèmes psychologiques, vous n'avez rien. Or, dans notre expérience, cette attitude est extrêmement néfaste, parce que les gens sortent de là tout à fait catastrophés. D'autant
sûr,
plus qu'ils ont ce qu'on appelle le syndrome du catastrophisme. C'est-à-dire que chaque fois qu'un événement va se passer, ils voient les choses en noir. Si leur enfant prend la voiture pour aller quelque part, ils le voient déjà accidenté et dans une chaise roulante paraplégique. Tout est vu en noir, donc un pessimisme constant, donc un profil psychologique particulier. Donc la première chose, c'est, nous pensons, c'est de leur expliquer ce qu'est la fibromyalgie, que c'est leur dire que c'est une réalité clinique, un syndrome clinique, qu'il n'y a pas d'évolution vers une paralysie parce qu'ils ont vraiment l'impression qu'un jour ils ne pourront plus bouger du tout, les efforts devenant de plus en plus difficiles et importants, qu'il faut au contraire qu'ils fassent des exercices, qu'il n'y a pas de gravité en soi, que c'est tout à fait désagréable, mais que c'est quelque chose qui ne aboutit pas à une invalidité réelle.
Donc en
et
fait,
physique.
Il faut, comment dire...
Les rassurer.
Les rassurer, et en même temps, les rassurer, ça veut dire aussi qu'on comprend leur mal.
Tout à
ils
fait.
Ils ne sont plus face à un mur en leur disant
absolument.
Vous n'avez rien, alors qu'ils souffrent justement
absolument.
Du fait qu'on leur dise qu'ils n'ont rien.
La première chose, c'est de les recevoir avec sympathie, malgré un abord qui est un peu difficile au départ.
Alors, vous parliez de catastrophisme, de personnes qui étaient irritables, état dépressif. Alors, parmi les traitements que l'on va donner à ces fibromyalgiques, je suppose qu'il va y avoir des antidépresseurs.
Alors, il faut d'abord soulager la douleur, bien sûr, c'est le devoir du médecin, en sachant qu'il ne faut pas donner de morphinique à ces malades, car on induit une chronicisation de l'utilisation de cette drogue. La cortisone ne sert à rien, les anti-inflammatoires non stéroïdiens sont peu efficaces, donc, on utilise sur des analgésiques simples, à la rigueur, un produit comme le tramadol qui agit sur les récepteurs opioïdes et qui a une certaine efficacité, surtout s'il est associé au paracétamol.
Mais comme vous nous aviez expliqué que justement c'était une altération de la perception de la douleur, peut-être que c'est plus cette perception que l'on pourrait éventuellement corriger ?
Alors, pour corriger cette perception, on va s'adresser aux antidépresseurs en utilisant l'action analgésique de certains antidépresseurs qu'on appelle des tricycliques, comme le laroxyl, l'anafranil, le tofranil, et à faible dose, c'est une dose qui n'est pas antidépressive, mais qui est une dose à action analgésique, on obtient un résultat qui est souvent tout à fait intéressant avec ces antidépresseurs. Plus récemment, on a mis en évidence chez ces malades une anomalie de la sérotonine. La sérotonine, qui est un neuromédiateur dérivé d'un acide aminé, le tryptophane, est diminuée dans le liquide céphalorachidien de ces personnes. Donc il y aurait un manque de sérotonine. Et en donnant des médicaments qui agissent sur l'accumulation de la sérotonine dans le cerveau, qui augmente cette accumulation, comme le Prozac et autres substances, il y en a toute une gamme, on diminue les phénomènes douloureux de ces personnes. Donc, les antidépresseurs qui agissent sur la sérotonine sont indiqués, ainsi que, plus récemment, les antidépresseurs qui agissent à la fois sur la sérotonine et sur la noradrénaline, qui est également un neuromédiateur à action cérébrale. Donc, en augmentant ces neuromédiateurs, on diminue la sensibilité, le seuil de sensibilité de ces personnes. Il y en a un effet positif.
Donc aujourd'hui, on sait traiter cette maladie ou on va par tâtons, on tâtonne pour trouver le bon traitement à chaque malade ?
Tout à fait. On dit que, premièrement, le traitement doit être à la carte et individuel. Ce n'est pas un traitement pour tout le monde, très individualisé. Ensuite, la prise en charge doit être multicentrique, c'est-à-dire qu'on a besoin du rhumatologue, du spécialiste de la douleur. On a besoin du psychologue, du psychiatre pour aider ces personnes à supporter la douleur, car il y a un état d'anxiété, souvent de dépression, de mal-être, que ce soit à l'origine ou que ce soit apparu secondairement, toujours est-il que ça fait partie du tableau clinique. Donc il faut qu'ils soient pris en charge. Ils sont toujours réticents à une prise en charge psychiatrique, mais il faut leur expliquer que ça rentre dans le contexte de la maladie. Et puis, il faut également un rééducateur, un spécialiste de médecine physique, pour leur faire une rééducation adaptée, pour les réentraîner à l'effort. Puisque l'effort est douloureux, plus l'effort étant douloureux, ils bougent de moins en moins. Plus ils sont sédentaires, moins ils bougent, plus les douleurs sont importantes et moins ils ont de possibilités de bouger. Donc on rentre dans un espèce de cercle vicieux dont il faut faire sortir les malades, ce qui n'est pas toujours facile.
Alors que justement, c'est l'exercice qui va de nouveau permettre aux muscles d'avoir une habitude, en tout cas, de...
Donc l'exercice, la balnéothérapie, voir les cures thermales, les thérapies comportementales, tout ça, le réentraînement à l'effort, tout ça est extrêmement important.
Alors je vous propose de marquer une seconde courte pause, professeur Joël Menkès, et on se retrouve dans la troisième partie pour parler, cette fois-ci, des traitements non conventionnels. Vous nous direz un peu ce que vous en pensez. À tout de suite. Suite de notre émission Éclairage, toujours en compagnie du professeur Joël Menkès sur la fibromyalgie. Avec vous, donc, au cours de cette émission, nous avons pu voir ce qu'était la fibromyalgie et les patients qui étaient touchés, enfin, quels étaient ces types de personnes qui étaient touchées. Maintenant, bien sûr, nous allons parler des traitements. Alors, nous avons parlé des traitements conventionnels. Nous allons parler des traitements, dans cette troisième partie, non conventionnels, puisque les patients ne trouvent pas forcément des réponses dans la médecine traditionnelle parce que, pour diverses raisons, peut-être que les médecins n'arrivent pas forcément à trouver le nom, à mettre un nom sur leur maladie et vont se tourner vers l'acupuncture, les thérapies comportementales, le tai chi, la chiropraxie dont on a parlé lors d'une précédente émission et puis également une alimentation modifiée. Mais tout d'abord, sur ce qu'on appelle les thérapies comportementales, est-ce que vous pensez que ça a un rôle accompagnateur pour vivre avec la douleur ?
Oui, là, je crois que, d'abord, vous avez tout à fait raison de dire que les malades sont souvent déçus de leur prise en charge médicale. D'abord parce que les médecins sont souvent pressés et que ces malades ont besoin de parler, de contact, de prise en charge longue. Et c'est pour ça qu'on essaye de se réunir à plusieurs pour les prendre en charge.
Parce qu'il faut préciser que c'est quand même une maladie handicapante.
C'est handicapant, tout à fait, bien sûr. Mais il faut justement essayer de lutter contre ce problème de handicap. Donc les thérapies comportementales sont importantes et doivent être appliquées dans ce cas particulier pour justement faire face aux phénomènes douloureux et leur permettre d'avoir une activité aussi proche que possible de la normale.
Mais pour vivre avec la douleur, ça veut dire qu'on ne la traite pas ?
On traite la douleur, mais on n'arrive pas toujours à la traiter avec un plein succès. En général, on obtient une amélioration qui se chiffre à 50%. Donc il faut associer les médicaments de la douleur, les antidépresseurs à dose active sur les phénomènes douloureux, la rééducation, les thérapies comportementales, l'exercice physique. Toute cette prise en charge complexe permet d'améliorer tout de même l'état de ces patients.
Alors aux États-Unis, parmi les thérapies qui existent, on mentionne le biofeedback qui permet de contrôler sa tension musculaire ou sa fréquence respiratoire pour essayer de maîtriser au mieux son corps, et également l'hypnothérapie. Donc pareil, c'est un accompagnement nécessaire.
Alors le biofeedback, oui, ça permet de contrôler sa rééducation avec un écran qui visualise les efforts que vous faites, avec un enregistrement de l'activité musculaire, ça c'est intéressant. Encore que on n'a pas encore de véritables études scientifiques qui montrent quel est l'avantage d'une technique par rapport à l'autre. Mais on peut tout à fait l'essayer. L'hypnose, ça n'a pas, enfin, à mon avis, ça n'a pas d'intérêt majeur. En tout cas, cet intérêt n'a pas encore été démontré.
Alors, on a aussi, bien sûr, toutes les manipulations physiques, hein, puisque ce sont les muscles qui nous font mal, ces espèces de courbatures en permanence. Bien sûr, votre amie, la chiropraxie.
Non, je crois que là, elle n'a vraiment aucune place, aucun intérêt, hein. Dans la mesure où il s'agit d'un problème purement fonctionnel, ce qui est important, c'est de faire une rééducation permettant une tolérance à la douleur et une augmentation de la force musculaire.
Que pensez-vous de l'acupuncture? Puisque là, apparemment, donc, il y a plusieurs études qui ont été menées, les résultats se contredisent. Est-ce qu'on en sait plus et qu'est-ce qu'il en est de l'acupuncture dans le traitement de la fibromyalgie?
Alors, il y a un certain nombre d'études qui ont été publiées, les unes disant que ça sert à rien et trois ou quatre disant que ça sert à quelque chose. Je pense que ça peut être un petit plus. Vous savez, l'acupuncture, c'est quelque chose qui a un certain intérêt, mais qui n'est pas majeur. À une époque, les Chinois avaient envahi l'Algérie, et c'était peu après l'indépendance, ils avaient créé des hôpitaux d'acupuncture. Et à ce moment-là, je recevais beaucoup de malades d'Algérie qui étaient passés par ces hôpitaux d'acupuncture pour traiter des maladies rhumatismales avec le plus parfait insuccès. Ils avaient essayé de tout traiter par acupuncture. C'était aussi à l'époque qu'on essayait de faire des anesthésies par acupuncture où on essayait de montrer que les gens pouvaient être opérés de l'appendicite, par exemple, sous acupuncture. Ça, une action, l'acupuncture a une petite action analgésique. On pense que ça libère par irritation de la peau la libération d'endorphines, dans des substances morphiniques qui calment les phénomènes douloureux. Donc c'est une petite action, mais c'est pas l'acupuncture qui va guérir un syndrome fibromyalgique.
Est-ce que l'effet psychologique, le fait que on s'intéresse à nous, patients, voilà, on se met dans le cas d'une personne atteinte de fibromyalgie, on ne le reconnaît pas comme étant un malade, on pense qu'il est un malade imaginaire, le fait qu'on s'occupe de lui, qu'on lui mette des petites aiguilles, ou qu'on le masse, ou qu'on le fasse une thérapie comportementale, est-ce que ça joue aussi sur l'effet psychologique qui fait qu'en fait cette personne va aller mieux, tout simplement parce qu'on l'écoute?
Tout à fait. Je crois que vous avez parfaitement raison. Vous avez mis le doigt sur la partie la plus importante du traitement, c'est l'écoute et la prise en compte des plaintes de la personne. D'ailleurs, même si vous avez quelques connaissances médicales, lorsque vous sentez une douleur que vous n'arrivez pas à caractériser et que vous allez voir un confrère qui vous explique très exactement de quoi il s'agit, vous êtes immédiatement soulagé. Il faut croire au médecin qui prend en charge et au traitement qu'il vous prescrit. Et j'ai le souvenir d'un ami psychiatre aujourd'hui décédé, qui était un des meilleurs psychiatres de Paris, à qui je faisais des infiltrations pour des phénomènes rhumatismaux réels, et qui me disait « à peine tu as piqué, je me sens déjà soulagé ».
C'est le principe d'aller chez le dentiste et d'attendre dans la salle d'attente et ne plus avoir mal aux dents, ne plus avoir sa rage de dents. Alors, parmi les autres traitements, en tout cas accompagnements possibles, on trouve sur les sites internet qui font référence à la fibromyalgie, une alimentation particulière et notamment prôner une alimentation végétarienne composée d'aliments crus et consommer beaucoup d'oméga 3, donc les huiles, les poissons, le gingembre et le curcuma.
Oui, moi je crois que c'est de la foutaise,
mais aussi de la... ça a le mérite d'être clair.
Un souvenir de malade atteinte de polyarthrite qui était arrivée dans le service avec un cajot rempli de légumes crus, et aussi elle avait quelques beefsteaks crus. Elle était persuadée qu'elle ne pourrait guérir sa polyarthrite qu'en mangeant des légumes crus, de la viande crue, etc.
Mais beaucoup de personnes pensent qu'on peut traiter les maladies avec une alimentation particulière. Par exemple, des personnes atteintes de cancer pensent qu'en mangeant beaucoup de fruits secs, par exemple, beaucoup d'oléagineux, par exemple, on va accompagner au mieux le traitement de sa maladie.
Oui, tout cela n'a aucune démonstration. Et je pense que pour le moment, ça... ces personnes qui ont ces phénomènes douloureux sont très fragiles et très influençables. Et représentent d'autre part un marché qui est assez important et considérable. Parce que même si c'est 2 ou 3% de la population, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc, qu'il s'agisse de médicaments vrais ou de médicaments fantaisistes, il y a... un grand intérêt pour cette cohorte de personnes souffrantes.
Alors, pour terminer cette émission, on va quand même terminer sur une note positive. C'est une maladie qui ne reste pas indéfiniment, hein, on ne vit pas éternellement avec. Ça peut durer très longtemps. Quelle est la durée moyenne de cette maladie, si on peut parler en ces termes?
Effectivement, c'est une maladie qui dure des années, avec des phénomènes douloureux qui sont à peu près constants, mais qui... après la ménopause, par exemple, finissent par s'atténuer à long terme. Donc l'évolution à long terme se fait plutôt dans un sens favorable. Et notamment chez l'enfant, qui est atteint de fibromyalgie, seules les formes extrêmement sévères au départ évoluent de façon grave, alors que les formes qui sont légères ou moyennes s'estompent à mesure que l'enfant grandit.
Donc
c'est plutôt rassurant.
Entre quelques mois et une vingtaine d'années ?
Absolument. Quelques mois, non. Je dirais quelques années, une vingtaine d'années.
Et comment cette maladie surgit-elle ?
Elle surgit souvent à la suite d'un stress psychologique. Pour une de mes malades qui avait une fibromyalgie les plus caractéristiques que j'ai pu voir, c'est lorsque son fils, unique, chéri, adoré, a amené à la maison une fille qu'elle jugeait épouvantable et qu'il voulait épouser à tout prix, et elle détestait cette jeune femme qui vivait avec eux, c'est là qu'elle a développé une fibromyalgie tenace, terrible, éprouvante.
Et donc, au bout de quelques années, cette fibromyalgie a disparu. Donnez-nous une note d'espoir, pour terminer sur une note d'espoir.
Quand elle a réussi à faire partir cette fille, pendant quelques mois, la fibromyalgie s'est améliorée. Mais malheureusement, le fils a récidivé, la fibromyalgie a récidivé. Mais c'est vrai qu'à terme, et à mesure que les traitements s'améliorent, parce qu'il y a une recherche énorme, hein, vous savez, il n'y a pas un numéro des journaux de rhumatologie, surtout aux États-Unis, qui paraissent, sans qu'il y ait des articles de recherche sur la fibromyalgie. Une énorme recherche dans le champ du diagnostic, de la compréhension du mécanisme et aussi du traitement. Il y a des nouveaux médicaments qui sont proposés en permanence. Actuellement, il y a des médicaments qui agissent sur la transmission de la douleur, la transmission périphérique, que l'on donne pour traiter tantôt des phénomènes de type épileptique ou pour des phénomènes de névralgie périphérique. Donc il y a sans cesse des produits nouveaux qui sont proposés.
Alors c'est sur cette note d'espoir que nous allons nous quitter, sur ces médicaments nouveaux à venir qui pourront traiter de mieux en mieux la fibromyalgie. En tout cas, merci de nous avoir donné toutes ces précisions. J'espère que les auditeurs qui recherchent des informations sur cette maladie encore relativement mal connue en Europe et plutôt mieux connue aux États-Unis et au Canada auront quelques éléments de réponse, quelques clés de réponse. Il existe des associations en France qui regroupent des personnes atteintes de fibromyalgie que vous connaissez personnellement peut-être.
Oui, il y a des associations de malades qui sont très actives. Elles ont joué un grand rôle dans la diffusion des connaissances sur la fibromyalgie et en obligeant les médecins à s'intéresser à ces personnes qu'ils avaient tendance à rejeter, étant donné leur présentation un petit peu difficile et leur prise en charge qui n'est pas simple, mais qui doit être réalisée au mieux de nos connaissances et de nos possibilités.
Eh bien merci professeur Joël Menkès, et je renvoie nos auditeurs à la précédente émission que nous avons réalisée ensemble sur l'ostéopathie, où de même vous aviez votre point de vue bien tranché sur la question, mais en tout cas avec des explications, une argumentation très claire. Donc nous renvoyons nos auditeurs là-dessus, hein. Je reste très mystérieuse pour susciter l'intérêt. Et puis, peut-être à une prochaine fois encore pour une nouvelle émission.
Avec un très grand plaisir et merci de m'avoir accueilli.
Merci beaucoup, au revoir.